Radio Foot International.
Olivier Pron.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans Radio Foot International. Oula, 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 non, stop. Pas sa pitié, il faut reconnaître que le plus enquiquinant, messieurs et chers amis, dans la Ligue des Champions, c'est quand même cette chanson, non ? Tellement entêtante. Pour le reste, que du bon avec la reprise ce soir donc des huitièmes de finale, retour de cette Champions, 4 matchs à jouer dans les 48 heures et du suspense partout, contrairement à la semaine passée. Qui est au programme dès ce mardi, les amis ? Barcelone-Naples, 1-1 à l'aller entre ces deux malades en championnat qui n'ont que cette C1 ou presque pour sauver leur saison. Pas de favori, nous dira Xavi, vous l'entendrez dans quelques instants. À votre avis, on verra bien. Arsenal-Porto, le nouveau leader de Premier League face au troisième du championnat portugais, a priori avantage Gunners, mais 1. Ce sont les Portugais qui ont un but d'avance et beaucoup d'expérience. 2. Ça fait 14 ans qu'Arsenal n'a pas rejoint le top 8 continental. Naïm Meunier, bonjour.
Salut Olivier, salut à tous.
Tout le monde a sa chance alors ou bien ?
Tout le monde, non. Je pense quand même qu'Arsenal est favori face à Porto. Après, pour Barcelone-Naples, c'est un peu plus serré.
Eh ben, on va en discuter. Après la C1, la Saudi Pro League. Et désolé, pas vraiment là pour en dire du bien. Intérêt en berne, comme le spectacle pour ce championnat de pré-retraités qui se voit pour l'instant bien trop beau qu'il ne l'est. D'ailleurs, qui le voit ? Stade aux deux tiers vide, audience calamiteuse en Europe et ailleurs. Au moins, est-il au niveau ? Bah non, a priori, puisque la nuit dernière, en tout cas hier soir, son principal VRP, Ronaldo et son club d'Al-Nasser ont été sortis sans gloire en quart de la Ligue des Champions Asiatiques par Al Ain, club des Émirats Arabes Unis. Vous regardez, vous, ce championnat, Nabil Djellit ? Vous le défendrez peut-être ou pas ?
Rome ne s'est pas construit en un jour et la Saudi Pro League non plus, donc je sais être patient.
Bienvenue à vous en tout cas. Beaucoup de joueurs africains évoluent en Arabie Saoudite avec des fortunes diverses. C'est sur le continent que nous terminerons donc cette émission. Au programme, un coup d'œil sur le tirage au sort des quarts de finale des Coupes des Clubs. Un retour sur la première conférence de presse hier du champion d'Afrique, Emers Faé. Un avis sur le nouveau sélectionneur burkinabé, Brahma Traoré. Et puis un coup de peigne. Et Oli, il vous convient ce sommaire, Franck Simon ?
Oui, salut Olivier, bah, sauf pour le coup de peigne.
C'est chaud qui peut un peu.
C'est exactement ça.
Je vous promets que je n'avais pas du tout pensé à vous au moment où j'ai écrit ces lignes.
C'est faux, vous mentez mal.
Allez, toujours pas le temps de niaiser, surtout quand il s'agit de dire du mal. Victor Missistrano a écouté, participé, puis publié. Mathieu De Gueldre a fabriqué, avant maintenant de réaliser. On peut y aller.
No hay problema, hace 4 años que no estamos en cuartos de final. Yo diría que no hay favoritos.
No hay favoritos, on vous avait dit qu'il le dirait Xavi. Pas de favoris dans cet explosif Barça-Napoli en un à l'aller, Osimhen ayant répondu à Lewandowski. Excusez du peu là quand même, sacré duel d'attaquants. C'est pas la Ligue d'Asie quoi en somme. Bon bref, bien malin qui pourrait nous dire qu'il va passer, non ? Allez Naïm.
Oui, parce que la logique voudrait que le Barça soit quand même un chouï favori. Le problème c'est que le Barça c'est une équipe... Je ne veux pas dire qu'elle est en difficulté, parce que factuellement, ce n'est pas vrai. Elle est troisième du championnat d'Espagne, mais ça fait quand même longtemps qu'elle n'a pas posé un match référence. Globalement, hein, peut-être à la rigueur, la victoire contre l'Atlético au mois de décembre, mais on est quand même mi-mars. On sait que son entraîneur va s'en aller. Son buteur favori, sa star, est vivement critiqué. Tout a l'air de reposer sur les épaules d'un gamin de 16 ans, aussi bon soit-il. Quand on est le Barça, c'est quand même pas normal. Donc, le Barça est très difficile à identifier. Puis Naples, qui certes a battu la Juve il y a 2 semaines, reste quand même une équipe qui revient de loin, qui a changé 3 fois de coach, dont, mis à part Osimhen, les joueurs qui ont été très bons l'année dernière, Kvaratskhelia, Anguissa, Politano, marquent un petit peu le pas cette saison, en tout cas elles le sont moins. Donc c'est difficile à dire, ça peut se jouer sur des détails, des bêtises, ça peut aller jusqu'au tir au but. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui qui est favori, non pas parce qu'on a affaire à deux grosses équipes, mais parce qu'on a affaire à deux équipes qui souffrent.
Pas de favori, Nabil, ça veut dire qu'on peut assister donc à un très gros match.
Bah, il y aurait pu y avoir un favori, ça doit être le FC Barcelone qui reçoit en fait quand même, puisqu'il a fait un résultat, même si le but à l'extérieur ne compte plus, mais qui a fait un résultat positif à l'extérieur en quelque sorte, qu'il n'y a pas de retard. Mais ce match, il est quand même rééquilibré par des paramètres extérieurs, quoi, les blessures, notamment au milieu de terrain, qui est la salle des machines. Du côté du FC Barcelone, il y a quand même du monde qui va manquer, De Jong, Gavi, Pedri. Alors certes, Gundogan est là, mais pour une équipe de Ligue des Champions, devoir faire dans le dépassement de fonction et la polyvalence avec Christiansen au milieu de terrain, même si c'est un très bon joueur, bah ça interroge. Donc pour moi, ça rééquilibre le match. C'est-à-dire qu'à plein pot, le FC Barcelone est devant, même si Naples a une belle équipe aussi. Enfin, surtout l'année dernière, cette année beaucoup moins, parce qu'il y a une forme de décompression, mais on en a déjà parlé longuement ici. Le match ne se joue pas au Nou Camp non plus. Ça enlève la saveur et le parfum des grandes soirées européennes. Et je pense que c'est un paramètre également à prendre. Et comme je dis souvent, moi, quand j'ai les mains moites et que je serre la main à quelqu'un, bah c'est du 50-50, c'est moite-moite ce match.
Comme je dis souvent, bah, Franck Simon, vous en pensez quoi ?
J'en pense quoi ? J'ai écouté mes camarades et je me dis que finalement, Naples a un sacré coup à jouer.
Exactement. C'est
tout simplement parce que, effectivement, même si Nabil a raison, même si Naïm a raison par rapport à ce que représente le bateau catalan, il y a des moments, effectivement, où tu sens qu'il y a du gîte, hein, que ça bouge de part et d'autre. Et j'ai envie de croire à la force de frappe, j'ai envie de croire à Politano, à Osimhen, à Kvaratskhelia. Je me dis, pourquoi pas, si c'était
pour aujourd'hui. De toute façon, il faut prendre un peu de recul sur la situation. La semaine dernière, quand le PSG s'est qualifié contre la Real Sociedad, on a analysé ce qu'il y avait analysé et très rapidement, on a dit, ben, pour les quarts de finale, ce qui serait pas mal, c'est de prendre soit le vainqueur de Dortmund-PSV, soit le vainqueur de Naples-Barça. C'est-à-dire qu'on a à peu près tous identifié le fait que cette affiche, qui en est une sur le papier, tout ce que vous voulez,
c'est sympa, ouais.
Dans les faits sur le terrain, c'est quand même c'est-à-dire que le vainqueur est bon à prendre si on veut aller en demi-finale. Et je crois pas que ce soit galvaudé de le dire. Effectivement, Naples sur le papier a peut-être un coup à jouer parce que ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est que Naples, on en parle un peu parce que c'est champion d'Italie, mais ses difficultés, je vais pas dire que c'est un train qui arrive à l'heure, mais ça se comprendrait peut-être un peu plus. Ils sont champions pour la première fois depuis 30 ans. Les joueurs qui ont été très très bons l'année dernière le sont peut-être moins cette année. Tout a l'air de reposer sur Osimhen. Il y a eu des départs. Le Barça, on comprend moins parce que c'est le Barça, parce qu'il reste sur deux éliminations en poule, parce que l'arrivée de Xavi devait absolument tout révolutionner. C'était lui aussi un des fils de Guardiola, encore un. Donc petit-fils de Marcelo Bielsa, donc dans la hiérarchie. Et puis on se rend compte que ça marche pas en fait. On se rend compte que le foot, c'est un peu plus subtil que ça et qu'en fait, il suffit pas d'arriver avec un nom et un écusson pour que ça fonctionne. Donc oui, Naples sur le papier pourrait créer la surprise, mais en même temps, Naples, ils sont quand même sur une dynamique. S'il n'y a pas eu la victoire contre la Juve il y a deux semaines, c'est, en 2024, c'est quand même plus que moyen. D'accord ? Donc je peux pas vous dire qui va s'imposer. Ça peut peut-être même aller au péno. Ça peut même vriller sur une erreur d'arbitrage à un match comme ça. Hein.
On rappelle que le Barça n'est plus allé en quart depuis 2020, et 2020, c'était la cata, puisque c'était le fameux 8-2 face au Bayern, c'était le top 8 puis, à l'époque, Covid oblige, qui était du côté de Lisbonne.
Et puis, dans le prolongement de ce que tu dis, même les années avant Covid, quand il y avait encore Lionel Messi, rappelez-vous les manières dont le Barça s'est fait sortir en 8e et en quart de finale sur les années précédentes.
C'est pour ça que je te disais ça. Je crois au Napoli pour ça. Je crois au Napoli.
Il y a un coup à jouer, ça, c'est
ouais,
certain.
Parce que t'es loin de tes bases. C'est un élément qu'il faut prendre en considération. Toi, t'as insisté là-dessus, Nabil. Le fait que tu joues plus actuellement dans ta maison et tu sais pas si tu y joueras d'ici l'hiver prochain.
Que tu es marqué à l'extérieur, mais que ça ne compte plus comme avant.
Voilà, que ta saison, elle est quand même bien cramée.
Et puis, il y a l'histoire du coach, quand même. Parce que quand vous savez qu'un coach s'en va, bah, vous avez votre destin personnel et le destin collectif, parfois, il est moins au rendez-vous, quoi. Et puis, l'autorité, la légitimité du coach, s'il y avait des décisions que vous aviez du mal à accepter, en sachant qu'il n'est plus invité la saison prochaine, vous avez encore plus de mal à les accepter. Maintenant, vous pouvez vous remobiliser, c'est-à-dire la Ligue des Champions, évidemment, c'est un tournoi. Justement. Et c'est un tournoi qui peut galvaniser, enthousiasmer les énergies et faire dépasser parfois certains dysfonctionnements. Mais on parlait des trois devant à Naples. Napoli, ouais. Bon, les trois devant... au FC Barcelone, c'est aussi une attraction avant intéressante, quoi. Lewandowski, Yamal et
Rafinha. Faut pouvoir les nourrir.
Rafinha,
il manque du monde. Tu l'as dit aussi. Hein.
Bien sûr.
Nourrir et il manque du monde, spécialement sur ce match-là. C'est pour ça que, en fait, vos analyses, pour moi, je les partage. Mais je me dis que comme c'est un cadre particulier,
t'es pour Naples, vous le Franck, je le sais, tu me l'as dit avant de rentrer. T'es pour Naples.
Oui, bien entendu. Mes origines italiennes remontent à la surface.
Mais c'est Diego Maradona, c'est tout ça. Il faut.
Exact. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est vraiment le fait que pour moi, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que tu peux te déchirer dans ton championnat, oui. Ça ressemble à rien, mais que là, tu dois élever, forcément, rehausser ton niveau. Et je crois au Naples pour ça. tout simplement.
Xavi, lui, justement, on l'évoquait avec Nabil, est plutôt confiant. Il rappelle, comme je le rappelais aussi, hein, que ça fait longtemps, trop longtemps.
Je dirais à mes joueurs de ne pas avoir peur. La crainte n'est pas bonne pour eux. Nous avons l'opportunité d'atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions, de figurer parmi les 8 meilleures équipes d'Europe. Contre Naples, on aura l'occasion de monter une marche et d'atteindre le top 8 européen. Ça fait 4 ans que l'on n'a pas atteint les quarts. On doit y retourner, sans avoir peur.
Xavi, pardon, j'allais le couper, Xavi, ça se fait pas quand même, qui dit aussi le match le plus important de la saison. Bah oui, on le comprend, ils sont troisième de Liga à 8 longueurs du Real, donc le titre s'est râpé, sorti de la Coupe du Roi, bon, vainqueur de Majorque ce week-end, 8 matchs sans défaite quand même, dont 5 victoires.
Oui, mais c'est des victoires pas terribles, ok, les 3 points sont là, mais là encore, quand tu bats 1-0 péniblement Majorque, quand tu fais un 5-3 un peu sorti de nulle part face à Villarreal, enfin, c'est des victoires qui posent question. C'était pas rassurant dans le jeu, avec, puis tu utilises beaucoup de jeunes. Là, ce week-end, il y a le petit Marc Gouilly devant, il a 18 ans, 17 ans. Bon, tu utilises quand même beaucoup de joueurs de la Masia. Alors, je veux bien que ça a le statut de meilleur centre de formation et on va te parler de Messi, on va te parler de machin, mais enfin, tout ça, c'est quand même des joueurs qui sont uniques. Généralement, ce qui en sort, c'est quand même très moyen. Et avec un effectif, le Barça a eu énormément de problèmes financiers, mais ils ont quand même mis 400 millions sur le dernier mercato. Donc, c'est-à-dire que tu es quand même en droit d'attendre quelque chose d'autre de ces joueurs-là. Et au final, tu l'as pas. Tu n'as pas le contenu. Tu as le fond, tu as la forme sur les victoires, mais tu n'as pas le fond. Et si tu n'as pas le fond en Ligue des Champions.
Et puis, tu prends des buts. Et ça, tu peux te
faire
sortir sur un nul de deux.
Xavi, il a amené son nom. Il a amené son nom, il a amené son palmarès sur le terrain. Il n'a rien amené. Et on se rend compte que tu peux avoir un type qui a à peu près tout gagné et tout bien fait dans sa vie. La transmission, ce n'est pas un truc qui est inné. Je veux dire, Xavi, ça n'a pas marché. Xavi n'a rien fait de plus que Valverde ou Quique Setién qui se sont fait laminer. Hein. Donc à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont.
Il y a beaucoup de monde qui s'est fait laminer sur ce banc.
Ils ne sortiront pas sur un nul 2-2 puisqu'il n'y a plus de but à l'extérieur. Mais ils peuvent être sortis après un 2-2 et prolongation et tir au but. Voilà. Pas de Young, pas Pedri, on l'a dit. Mais Lamine Yamal, vous l'avez évoqué tout à l'heure, 16 ans, 7 buteurs contre Majorque vendredi. Ça, c'est quand même la petite pépite. Gaucher comme Messi, dit-on. On va le comparer beaucoup trop vite à beaucoup trop grand que lui.
Non, mais c'est évident que c'est un surdoué du football. Maintenant, est-ce qu'il peut porter un club comme le FC Barcelone dans un quart de finale de Ligue des Champions? Ça ne doit pas être son rôle. Lui, ça doit être la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau, il est pas terrible quoi, en ce moment. Quoi,
mais du côté pas trop de goût, non.
Voilà, du côté du FC Barcelone. Maintenant, c'est toujours excitant de voir des joueurs comme ça parce qu'on ne sait pas déjà ce qu'il va devenir, quelle va être son histoire dans 10 ans. Comment elle aura marqué
moins
l'histoire
de 10 ans,
football.
Voilà. Ansu Fati, aujourd'hui, t'en parles plus. Hein.
Donc ça va vite.
Et c'était la même chose. On en disait exactement la même chose.
C'était le nouveau Messi, puis Giovanni Dos Santos, et puis
ça
Gavi.
Ça fait penser au Réfé. Tiens, le Réfé, s'il nous écoute, on pense bien à lui. Surtout quand on dit du mal du Barça.
Non, mais après, les blessures... Enfin, Fati, il a eu les blessures qui l'ont rattrapé, malheureusement, pour lui. Mais c'est vrai qu'il a des qualités d'élimination qui sont exceptionnelles. Il a une finesse qui est incroyable. Il joue assez juste, mais... celui qui doit être la star, c'est pas lui, c'est Lewandowski. Oui. Alors évidemment, Franck, il a raison quand il dit qu'il faut arriver à l'alimenter. Yamal, ça sera un de ses rôles. Rafinha également, ça sera un de ses rôles. Mais pour en revenir à Xavi, juste un mot, il a quand même l'occasion, qu'on le veuille ou non, après on peut penser tout ce qu'on veut de son contenu, je crois que la saison dernière, elle était quand même champion d'Espagne, par rapport à sa trace et ce qu'il va laisser, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas rien fait non plus,
non.
Par rapport à sa trace et ce qu'il va laisser, cette Ligue des Champions un peu faiblarde, si tu vas loin... Il y a la possibilité d'aller loin, on est d'accord. Vous me dites que il y a
bien
des
sûr, petits... oui,
un faiblard de pour
lecture...
l'instant les qualifiés sont pas,
oui,
non, mais... pas dégueu.
Oui, mais... on rappelle, oui, c'est vrai. Il faut quand même rappeler les 4 premiers qualifiés. Manchester City tenant du titre, le Real Madrid, le PSG et le Bayern. Donc, on va attendre de voir. Autant on a des huitièmes de finale pas tip top, hein, très honnêtement, non. Le spectacle n'est pas vraiment là. Mais les 4 premiers étaient très déséquilibrés. À la sortie, on va peut-être avoir 8 cadors.
Ouais, mais c'est peut-être une compétition inespérée entre guillemets. J'en sais rien. On peut pas se projeter. Ce qui va se passer pour soigner sa sortie.
Bien sûr.
Et arriver en finale, par exemple, je ne sais pas, on va se faire éliminer ce soir, mais si vous arrivez en finale, c'est pas la même lecture de sa mandature. C'est ce que je pense. Hein. On n'y est pas. Mais cette Ligue des Champions, je pense que pour lui, c'est une opportunité et on pourra derrière dire Xavi et son œuvre. Xavi, son œuvre.
Je ne l'avais pas vu venir. Celle-là, ça va que j'avais oublié.
C'est construit quand même, hein, vous aurez noté.
Oui,
c'est un peu
plus,
c'est un peu
c'est plus sobre que Rémy Ngono le vendredi.
Voilà.
Côté,
un peu plus de...
Mettre un peu d'esprit. Hein. Ouais.
Dites-moi, Osimhen 11 buts, Lewandowski 12. Le duel d'attaquants est plutôt
séduisant,
mais on reste sur
Rémy,
notre
Olivier.
Fin. Ah.
Et il vous demande si vous allez bien.
Oui, bah, ça va pas mal. On va se croiser un vendredi prochainement. Qui le prépare ses proverbes. On salue bien sûr.
Évidemment.
Mais on pense qu'il n'écoute que l'émission du vendredi quand il rentre chez lui. Osimhen, 11 buts, Lewandowski, 12 buts, c'est pas terrible. C'est de là aussi, ont besoin de fonder donc.
PTCC ?
Non. Oui, bien sûr. Enfin, pour le moment, oui.
Le problème, alors, sur Osimhen, à la rigueur, on a quand même eu une saison tellement folle l'année dernière à Naples, que ce soit la sienne, celle de Kvaratskhelia, qui a un retour à la normale. C'est peut-être un peu bas par rapport à ce qu'on pourrait
très
penser.
Bas, hein. C'est très bas. Hein.
C'est très bas, mais en même temps, c'était prévisible. Et puis, tu sais, il y a un effet. Lewandowski, c'est quand même un type qui arrive avec 6-7 ans de très très haut niveau au Bayern,
évidemment.
Qui est la pierre angulaire de cette équipe, parce que moi, on peut jouer avec De Jong, Pedri et
Mais
Mindogan,
c'était,
si
c'était
vous
une de ces interrogations, tu te souviens, quand il arrivait, on se disait, est-ce qu'il sera capable
mais la
d'avoir
saison dernière, il a mis des buts. La saison dernière, il mettait des buts. Oui. Lewandowski, c'est pas un flop au Barça.
Ça a aidé à chercher le titre.
Le problème, c'est qu'il prend dans la tronche tout ce qu'on a souligné depuis tout à l'heure, c'est le fait que cette équipe tourne moyennement quand elle tourne bien. Que le fait d'avoir un coach qui a peut-être déjà annoncé son départ, mais qui en tout cas pratique un jeu qui, à mon avis, ne le sert pas tellement, parce que le jeu du Barça, le jeu du Bayern, c'est quand même pas tout à fait la même chose, bah, il prend ça dans la tronche. Et je trouve que le comportement de certains supporters qui ont osé le siffler, sincèrement...
On ne siffle pas
les mais quand on a vu sur les 2-3 dernières saisons les pompes qu'il y a eu devant au Barça, les Luc de Jong, les Traoré, même Dembélé, c'était quand même pas fameux, on essaye de respecter un petit peu.
Ah bah le football, il a changé. Hein.
Oui, je veux bien. Ouais.
Allez, l'autre affiche de la soirée. 20h, temps universel. Pas mal non plus. Arsenal-Porto. Les Portugais s'étaient imposés 1-0 à l'aller dans les arrêts de jeu. Un but de Galeno. Un petit pécule d'avance quand même avant de défier les Gunners chez eux.
Ça va être lent, franchement. Ça va être, déjà, je trouve que le résultat aller nous permet d'avoir un match au retour. Parce que Arsenal, c'est une équipe qui est une des meilleures équipes européennes dans le jeu, ça, on peut pas le nier.
Et puis, on sait qu'elle est pas très bonne à l'extérieur. En revanche, elle cartonne chez elle. 12 buts marqués en 3 matchs en phase de poule, quand même.
Et le match, comme je dis souvent, le match le plus important de la semaine pour Arsenal, c'est peut-être celui de dimanche, quoi, contre Manchester City. Hein, je le rappelle.
Le 31 mars.
Il va falloir. Ouais, il y a un peu d'espace. Ils vont jouer les deux, les Anglais. De toute façon, ils savent pas faire autrement. Puis en général, ils ont l'argent.
C'est vrai qu'ils sont leaders de première ligue depuis dimanche.
Ils ont l'argent, la profondeur de banc. Maintenant, ça va être intéressant. Et puis Porto, jamais à sous-estimer. Ils sont à un doigt, Porto, de la qualification.
Et allez.
Et on sait leur expérience dans cette On connaît leur expérience dans cette compétition. Et le 1-0, but, c'est peut-être le but marqué par Galeno en fin de match. C'est peut-être le but le plus important de la saison de Porto.
Allez-y.
Je voulais juste qu'on écoute Mikel Arteta parce que il rappelle un peu les faits et les enjeux de la soirée pour les uns et les autres. Écoutons Mikel Arteta.
Nous allons certainement devoir modifier certaines choses pour nous créer beaucoup plus d'occasions qu'à l'aller. C'est le niveau de la Ligue des Champions. On affronte des équipes de haut niveau. Nous devons élever le nôtre. Ensuite, il faut être courageux et avoir la force de renverser la situation. On ne peut pas attendre, on doit forcer le destin et c'est ce que nous allons faire. Je pense que le rôle que nos supporters vont jouer est incroyable. Je ne pense pas qu'ils s'en rendent compte. Nous avons besoin de ce bruit. Nous avons besoin qu'ils jouent tous les ballons avec nous. C'est une belle occasion de vivre une grande soirée. Cela fait 14 ans, alors ça mérite tous les efforts possibles.
Vous avez remarqué qu'on a du budget, on a embauché un comédien pour faire le doublage des voix et donc ça s'entend tout de suite.
Très bon.
Victor M, il veut pas qu'on en dise plus.
Il a de l'avenir, hein, ce petit jeune.
On rappelle qu'Arsenal n'a plus disputé un quart en Ligue des Champions depuis 14 ans, c'était en 2010 aux dépens de Porto.
L'histoire bégaye donc.
Et c'est le retour en Ligue des Champions cette saison, première fois depuis 2016-2017. Ça, c'est pour les stats un peu moins encourageantes. Ce qui est encourageant, c'est 8 victoires de rang en championnat, toutes compétitions confondues. La dépêche, j'aimais bien ce titre d'une dépêche ce matin, apprendre vite ou sortir tôt. C'est simple et ça s'applique assez bien à Arsenal, cette confrontation, apprendre vite ou sortir tôt.
Bon, le match aller est complètement fou parce que cette histoire où Arsenal n'a pas cadré une frappe, quand on sait qu'il colle en moyenne 4 buts par match en championnat, quand on sait que la première ligue est en soi une Ligue des Champions, parce que quand vous vous tapez à la suite les United, les City, les Chelsea, les Liverpool et compagnie, c'est de la Ligue des Champions. Arsenal n'est pas en ballotage favorable puisqu'il a perdu, mais il est évidemment favori, surtout à domicile. Moi, je vais quand même être plus mesuré sur cette histoire d'expérience. Évidemment, les jeux Saka, Martinelli, Odegaard, Saliba, il ne joue pas
aucune
la Ligue
expérience.
Aucune expérience. Mais attendez, juste Porto, effectivement, sont en Ligue des Champions tous les ans, mais ils changent d'équipe tous les ans. Et que les joueurs qui sont arrivés de Gil Vicente, de Famalicão ou de Boca Juniors, ils l'ont joué quand la Ligue des Champions ?
Voilà. 8 joueurs ont découvert la Ligue des Champions cette saison à Arsenal, notamment Bukayo Saka, 13 buts en championnat, on le rappelle, Rice, Saliba, seul Kai Havertz. Ouais. A un peu d'expérience, finale, 40 matchs. Pour vous donner un ordre d'idée du côté de l'expérience de Porto, ben on a Pepe, 41 ans, c'est l'âge d'Arteta. Si, d'ailleurs, au passage, si lui, il disputera ce soir son 120e match, ouais. Trois fois plus que Kai Havertz, qui est le plus expérimenté.
Ouais, mais Pepe, il a le double de son âge aussi, c'est pas étonnant.
Puis Pepe, 3 titres, hein, 120 matchs, ouais, et voilà, 3 titres joué, avec le Real, évidemment.
C'est extraordinaire.
Mais enfin, l'expérience, elle peut jouer. Porto, même s'il a la dernière Ligue des Champions, c'est 2004.
Oui, mais l'expérience,
une culture de l'Europe.
Culture.
C'est ce que vous voulez nous faire croire.
Un ou deux joueurs
partout, là, sur ce match.
Ah, j'étais sûr que vous alliez embrayer sur l'expérience. Pardon, juste un mot de Franck.
Non, c'est pour moi ça.
C'est les Gunners, quoi qu'il arrive. J'ai l'impression que vous êtes assez unanime.
Ouais. Ce serait quand même extraordinaire de voir Arsenal sortir à domicile, surtout face à une équipe qui, oui, il y a Pepe qui a 120 matchs de Ligue des Champions, mais je te l'aurais dit, les mecs qui sont arrivés de Famalicão, de Gil Vicente, qui l'ont joué quand la Ligue des Champions.
Quel âge il a ?
41, l'âge d'Arteta.
Ouais, dans d'autres pays, il doit avoir 28 ou 29 ans, Pepe.
Ouais, on a abordé ce sujet hier, du côté du Cameroun.
J'ai pas donné de...
Franck, oui, votre avis sur ce...
Ce n'est qu'un avis, encore une fois. J'ai toujours pas de boule de cristal cette saison non plus. Mais oui, mais Arsenal pour ce qu'il propose, pour cette jeunesse insouciante, pour le talent, pour tout ça. Et c'est pas insulter Porto qui était allé chercher la victoire à l'aller. C'est juste que ça me paraît compliqué. Ça a pas pesé super lourd le moment venu face à ces jeunes Gunners qui nous ont impressionnés dans d'autres moments et puis qui sont en pleine bourre en championnat. Moi, je m'attends à un match super spectaculaire, un match musclé parce
bien
que
sûr.
Voilà, avec Pepe et tout ça, ça va donner. Mais pour Arsenal, normalement, ils doivent.
On rappelle que Porto était en huitième de finale en 2018, en 2023, en quart en 2019, 2021. Donc pendant que Arsenal ne jouait pas...
Ils sont là où on les attend.
Oui, mais avec combien de mouvements de joueurs, une fois de plus ? À chaque fois, c'est ça le problème de Porto. Oui, le club est là tous les ans ou quasiment tous les deux ans.
Ils sont réguliers dans...
Mais en même temps, c'est un des clubs qui vend et qui achète le plus de joueurs. L'effectif est quasiment renouvelé de moitié par équipe chaque année. Tu joues le Real, tu joues le Bayern, tu joues City, tu dis bah oui, les mecs ils sont là depuis 10 ans, ils ont toujours la même équipe. Là, l'expérience, je peux l'entendre. À Porto, c'est quand même beaucoup moins le cas. Donc même si tu as l'expérience du club, l'équipe en soi, je vois pas comment Porto peut aller battre Arsenal. Après, si on veut faire vivre le débat, je peux vous dire que c'est un truc de fou, mais bon.
Bah, ils vont les emmerder à un moment, quoi. Et peut-être une
mi-temps. Oui, à l'aller, ils prennent pas 4-0. Toi, Galeno, il marque, il est à la 95e. Donc ils sont pas fait rouler dessus non plus.
C'est surnaturel l'aller, hein, franchement.
pour mettre tout le monde d'accord, on a retrouvé cette analyse d'un expert, une analyse assez récente. Je vous propose de l'écouter.
Donc ils vont largement passer l'écueil. On va les retrouver en quart de finale. Après, en quart de finale, ça sera un autre débat parce que là, tu arriveras face à des équipes qui y sont tous les ans avec les mêmes joueurs.
Ouais, voilà, on s'est dit,
il est
raccord. S'il avait dit le contraire, on se serait plus marré. Mais comme quoi, on lui demande son avis toutes les semaines sur Arsenal, ça peut toujours servir.
Merci.
Ils ont pris un coup de canon Arsenal au match aller surtout.
Non, mais arrêtez avec ça, là je vais pas tenir. Vous allez me ramener à mon vendredi, j'ai pas envie. Voilà ce qu'on pouvait
Olivier,
dire sur cette.
Celui qui était ridicule, en revanche, j'ai trouvé, c'est Arteta, quoi, dans son discours. Il n'y a pas plus.
Il a 41 ans.
C'est plus une langue, hein, c'est un tronc d'arbre maintenant.
Ce qui est sympa, c'est qu'on a deux matchs ce soir. Au-delà de savoir qui va gagner ou perdre, on a deux matchs indécis.
Voilà,
on a des équipes quand même prestigieuses. On a eu des matchs les semaines, mis à part Leipzig.
Là, on va se régaler.
City, Copenhague, c'était sans intérêt. Le Paris Saint-Germain, au début de la deuxième mi-temps du deuxième match, était terminé. Bon, là, j'espère que ça va être un peu plus excitant parce que moi, je suis d'accord avec Patrick Julliard, on en discute souvent. On est quand même sur une Ligue des Champions faiblissime. Honnêtement, tu parlais de la première ligue tout à l'heure.
Aussi
la première ligue, c'est beaucoup plus intéressant que la Ligue des Champions.
Et Patrick vous dit, c'est aussi faible que Nice en championnat de Ligue 1, quoi.
Alors il faudra lui demander à lui en direct. Il a sa théorie. Comme il a sa théorie sur Wolverhampton 1972.
Merci en tout cas. C'est vrai qu'on on s'impatiente de voir ces deux affiches ce soir. Il y a du suspense. Il devrait y avoir du spectacle. C'est-à-dire que c'est tout sauf la Saudi Pro League.
Tout le monde se fout de la Saudi Pro League.
Oh look, it's going to become the biggest league in the world all of a sudden because Benzema and Conte and Ronaldo are here. It's not that simple.
I don't think that yet European football is in danger.
Thierry Henry, c'était le dernier qui pense que l'Europe du foot n'est pas en danger encore. La Saudi Pro League, c'est star sur le chemin de l'EHPAD, c'est milliards et c'est non regardant. Oui, on est dur, on grossit le trait parce qu'on veut avoir votre opinion, mais après, on se base sur des chiffres. Et d'abord sur un résultat. Hier soir, le plus grand VRP donc, de cette Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo, et on n'a absolument rien contre lui. C'est pas parce qu'on est pour ou contre Ronaldo surtout qu'on parle,
pas.
C'est simplement l'actualité.
C'est pas
Cristiano
comme si
Ronaldo.
Il y avait un chef qui était argentin ici pendant très longtemps.
ces cinq ballons d'or, son jugement récent, on s'en souvient, la Saudi Pro League, c'est mieux que la Ligue 1, son ego, tout ça. Bref, sorti dès les quarts de finale de la Ligue des Champions d'Asie par Al Ain, un club émirien. Pas regardé, pas au niveau, en somme, cette Saudi Pro League. Ceci expliquant peut-être cela. Débattons-en, messieurs. On reviendra sur cet article, samedi, de Sacha Nokovic, dans l'équipe, qui donnait des audiences catastrophiques en France, mais on évoque des audiences pas bonnes non plus ailleurs, en dehors de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, bien sûr.
Si vous me permettez de voler au secours de Cristiano Ronaldo, c'est quand même un des rares de ceux qui ont été transférés là-bas pour je sais pas combien, qui est quand même à avoir gardé son niveau. Faut pas déconner, parce que alors qu'il se soit fait éliminer par le foot émirati, à la rigueur, je veux dire, Le Real n'a pas toujours été champion d'Europe, je veux dire, et ça lui a aussi arrivé de se faire éliminer en Europe. En soi, c'est pas dingue, et il y a quand même deux autres clubs qui sont en quart de finale, et comme il y a un duel 100% saoudien, t'en auras au moins un en demi.
Est-ce qu'il
est à peu près sur les canons des deux, trois dernières années. D'ailleurs, Al Hilal l'a gagné deux fois sur les dernières années. En fait, le vrai souci là-dedans, c'est que quand je dis on, je ne me mets pas dedans, parce que moi, justement, j'étais plus mesuré là-dessus. On a vendu un truc exceptionnel en début de saison, en nous expliquant qu'avec l'arrivée de joueurs européens, forcément le niveau du championnat allait grimper. Tu te rends compte que pas du tout. L'essentiel qui ont été là-bas, c'est pour prendre du pognon et être en pré-retraite. À l'exception de Cristiano, peut-être d'Alexander Mitrovic, dont on n'attendait rien du tout, en fait. Je pense que tous les mecs qui sont partis là-bas, Mahrez, Mané, Koulibaly, Saint-Maximin, ce qui vous voulez, Fabinho, c'est quand même très moyen. Et on se rend compte qu'aujourd'hui,
pour mettre leur famille à l'abri.
On se rend compte qu'aujourd'hui, le niveau du championnat décolle pas. Les audiences qui sont nulles, fallait s'en douter. Je veux dire, à un moment donné, quand tu te rappelles des audiences de certains matchs de Ligue 1, passer la nouveauté de voir Ronaldo et Benzema avec un nouveau maillot, en fait, les gens regardent pas. Et au final, c'est quelque chose de logique d'annoncer. Le problème, c'est pas qu'on soit à ce niveau-là et du foot et des chiffres d'audience. Le problème, c'est tous les gens, il y a 6 mois, 8 mois, qui nous expliquaient que ça allait être fantastique.
Franck.
Moi, je continue d'y croire. Je continue d'y croire, même si effectivement, c'est difficile actuellement d'en parler comme d'un projet d'avenir, tout simplement. C'est vrai que là, j'arrive après toi, donc du coup.
Ouais, mais alors du coup, tu crois à quoi, Franck ?
Non, je.
Si
je
c'est pas un projet d'avenir ?
Non, non. On a bien vu qu'ils étaient là pour. C'est un projet d'abord politique,
évidemment.
Oui, avec
oui,
la Coupe du Monde 2034, ça fait partie d'un tout. Mmh. Tu ne peux pas détacher aujourd'hui la Saoudi.
Attends,
c'est ce qu'on appelle du soft power.
Le Qatar a eu sa Coupe du Monde, le Qatar a fait ça pour avoir sa Coupe du Monde, le niveau du championnat s'est jamais élevé.
Non, on est d'accord. Après, je fais partie...
Ni le niveau de l'équipe nationale.
Je fais partie de ceux qui sont abonnés et qui... ont la possibilité de suivre les matchs. Je suis désolé, c'est pas si dégueulasse que ça. Ouais. C'est pas si pourri que ça. Je n'assiste pas à des matchs avec que des pré-retraités. En revanche,
on
n'a
pas dit tout à fait ça. On évoque surtout les audiences.
Comme
ça.
Et encore, le coût des audiences, j'aimerais avoir tous les chiffres, parce que là, en fait, c'est une vision franco-française
l'équipienne. On rappelle juste que le diffuseur, c'est Canal. C'est peut-être pour ça que nos amis africains y ont accès, parce qu'il n'y a pas de diffuseur africain, de la même manière que c'est un championnat qui n'est pas diffusé en Amérique du Nord.
Vous pouvez aller l'attraper.
Il y a 130...
sur les abonnés du bouquet Shahid, donc en langue arabe, vous pouvez les avoir. Ça veut dire que dans les pays arabophones,
officiellement, il n'y a pas de diffuseur en Amérique du Nord et en Afrique. Il y a 130 pays ou territoires.
Les chiffres, on les a pas à la fin.
Personne ne communique. Je rappelle deux choses. 15 000 téléspectateurs en moyenne par match sur Canal, 5 000 sur le dernier qui était une affiche.
Mais attends, Olivier, comment ça fait Clermont-Lorient?
C'est 6 fois moins 5 000 téléspectateurs
pour le dernier match. Clermont-Lorient, il y a ni Benzema ni Ronaldo, en fait.
C'est 6 fois moins qu'un match de National. Le dernier, c'était Rouen, je ne sais trop quoi. Juste pour vous rappeler aussi que c'est 1 million d'euros les droits. Donc, autant dire, comme on dit à Canal, c'est cadeau, on offre ça, ça ne nous coûte pas bien cher. Et une dernière chose, en Espagne, vous savez qui a les droits ? C'est Marca, le journal Marca, voilà, qui les a achetés pour 60 000 euros et qui ne met même plus aujourd'hui dans sa page d'ouverture les matchs de la Saudi Pro League en tête de gondole, tellement ça ne marche pas.
Non, mais si tu mets pas les grosses affiches, il ne faut pas t'étonner que pour Faïa contre...
Oui, ce n'est pas toujours Ronaldo contre Benzema.
Voilà, faut aussi,
ça arrive une fois dans la saison.
En revanche, il y a eu quasiment 840-850 millions d'euros qui ont été déboursés. Officiellement.
873 millions d'euros, effectivement, l'été dernier.
C'est considérable. Et on compte pas dedans, on compte pas Cristiano, puisque lui était arrivé l'hiver d'avant.
Donc, du coup, Franck, je te pose la question, comment tu vas faire pour faire mieux que ce qui a été fait l'été dernier pour que ce soit un projet d'avenir?
Moi, je ne suis pas l'architecte du projet de la Saoudi.
Tu me dis que tu continues d'y croire.
Je continue d'y croire parce que j'ai envie d'y croire sportivement.
Attendez.
On va tous parler les uns après les autres. Sauf que moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, et je crois que vous vouliez en venir là aussi, ouais, Olivier, c'est qu'on va continuer, on risque d'ouvrir encore plus aux joueurs étrangers.
On passera l'été prochain de 8 à 10 joueurs étrangers par équipe.
La fédération saoudienne,
ne développez pas le foot local en faisant ça.
Non, elle a pris des gens justement pour favoriser. On a mis en place des pôles pour favoriser l'essor des joueurs nationaux. Comment tu veux faire si tu ne prends que des étrangers et surtout à des postes où eux ils n'ont pas de joueurs? C'est impossible.
C'est un problème qui a été levé l'été dernier. Les joueurs locaux qui allaient devoir soit jouer dans des petits clubs, soit bouger justement aux Émirats, au Qatar ou je sais pas où pour avoir du temps de jeu, ça va à terme affaiblir l'équipe nationale puisque tous ces joueurs là qui viennent, les stars, les pré-retraités, prendre de l'oseille, ils sont pas internationaux saoudiens que je sache.
Même ils vont pas faire 10 ans, Naïm, tu vois.
À un moment donné, tu as mis 873 millions, ok, mais tu vas prendre qui l'été? Tu peux surpayer des mecs, mais le niveau, c'est pas pour ça qu'il augmente.
Tous sont surpayés.
Saint-Maximin, tu peux l'acheter 200 millions, ça restera Saint-Maximin. Et qu'à un moment donné, là, cet été, tu vas prendre qui pour essayer d'être au niveau de ce que tu as déjà amené? Bellingham,
le
Haaland,
seul qu'ils n'ont pas eu, c'est Mo Salah.
Si non, mais la clé,
Nabil, ce qui est inquiétant aussi, c'est de voir à quel point les stades sont vides. À part deux clubs qui font le plein parce qu'il y a les stars, le reste, les stades sont vides. Donc ça veut dire que les Saoudiens eux-mêmes ne se déplacent pas pour voir jouer leurs joueurs dans cette ligue des Harlem Globetrotters, comme le disent certains.
Après, il y a quand même une question de culture club. C'est-à-dire qu'il y a 3-4 gros clubs forts, eux, globalement. Ils remplissent quand même les stades.
Bilal,
ensuite, Nasser, l'idée, c'est aussi d'exporter à l'intérieur même du propre pays une audience, une qualité de football et de faire que certaines villes périphériques, elles aussi, commencent à s'intéresser au football. Mais très vite, bon, déjà, le signal l'été prochain, voir s'ils vont continuer à recruter, quel type de joueurs. Deux, c'est
en passant de 8 à 10 étrangers, on peut imaginer que ça va continuer.
Quel standing de joueurs. Alors moi, je suis comme Franck, j'attends de voir. C'est-à-dire qu'il faut laisser du temps, ça ne va pas se faire aussi vite que ça. Ça ne prendra peut-être pas la place qu'on imagine dans notre esprit, mais à qui est destiné ce marché. Ouais. C'est vrai qu'il y a les audiences en France, mais j'aimerais bien connaître les audiences ailleurs, mais ça, c'est une autre histoire.
Ça marche, on le sait, en Afrique du Nord, dans tous les pays.
Il y a quand même des salaires qui arrivent. Donc, ça peut-être qu'ils s'adressent davantage à eux qu'à nous. Mais bon, bref, ça, c'est une autre histoire. Ensuite, ce qui est hyper important et ce qu'ils ont identifié.
Tu aimerais bien séduire l'Europe quand même.
Tu fais du leur rêve pour avoir un club en Ligue des Champions.
Ils n'ont pas besoin de séduire l'Europe. Ils ont la Coupe du Monde 2034. C'est fait. C'est validé.
Mais ce qui est intéressant, pour valider leur championnat, ils ont besoin qu'ils soient gardés.
Ils ne font pas du soft power juste pour le Maghreb.
Et il n'y a pas que le Maghreb. Ensuite, pour aller un peu plus loin, ils organisent. Il n'y a pas que le football, il y a les expos universels, il y a les jeux d'hiver.
Tu veux qu'on parle de l'ambiance au combat de boxe de ce week-end?
Autant dans un championnat, c'est pour qu'ils soient regardés.
C'est ridicule.
Sur un paramètre, après, tu n'es pas obligé de regarder.
C'est ridicule.
Sur un paramètre qui est hyper important pour la suite, mais moi, je donne juste des éléments. Je ne dis pas, je ne connais pas, je ne peux pas pronostiquer l'avenir. Le deuxième étage de la fusée, vous prenez ça comme vous voulez. Peut-être ça ne va pas vous faire regarder les matchs, je comprendrai. C'est de doter les autres clubs, c'est-à-dire pas les 4 premiers, les autres clubs au fur et à mesure de joueurs de qualité. Pour élever leur niveau et avoir un championnat plus compétitif.
Ça me semble plein de bon sens.
Je sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, il y a une réflexion derrière. Ensuite, on va pas se leurrer ici et on va arrêter l'hypocrisie. Comme pour le Qatar et comme pour d'autres, la raison première, elle est politique. Tout simplement, c'est pour donner du crédit à leur Coupe du Monde 2034. Après, tu regardes ou tu regardes pas, je crois qu'ils ont quelque part rien à cirer que nous, on regarde ou pas. Je le pense, vraiment. Par contre, faire venir des joueurs...
C'est une autre vision du soft power.
Faire venir des top joueurs...
Bah oui, en fait, c'est plus du soft power.
Ils veulent que qui regarde.
Attends, mais il n'y a pas que la France et l'Europe. Il y a l'Afrique, il y a l'Asie, il y a le monde arabe. Le monde arabe, c'est des centaines de millions de personnes.
Mais regarde que parce qu'il y a Cristiano Ronaldo.
À un moment donné, il faut arrêter de dire n'importe quoi.
Qui dit n'importe quoi?
Toi, qui gère le foot? Non, mais qui gère le foot européen? Non, qui gère le foot européen? Jamais. Qui gère le foot européen? Je vous montre
des vérités sur.
C'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui décide du foot européen, c'est l'Afrique qui décide de qui organise la Coupe du Monde, c'est l'Afrique qui décide de tout ça. Non, c'est l'UEFA et la FIFA qui gèrent tout en fait. Et à un moment donné, c'est pas l'Afrique, c'est pas l'Amérique du Nord qui gère tout ça. Donc à un moment donné, si tu fais pas du soft power pour ces pays-là, pour ces continents-là, c'est pas le Maghreb ou l'Océanie ou l'Asie du Sud-Est qui va décider pour toi.
Mais c'est fait, ils ont la Coupe du Monde.
Tu vas doter des clubs périphériques de bons joueurs pour élever le d'accord. En abaissant le niveau du foot national.
Nabil, qu'ils aient la Coupe du Monde, c'est une chose. Ça ne les empêche pas de vouloir quand même avoir un championnat. Là, on n'investit pas autant, on cherche pas à en faire autant si alors, pour que personne ne regarde, y compris dans les stades, pour jouer dans les stades vides.
Mais comme je dis n'importe quoi, je vais arrêter de parler.
Mais moi, je ne dis pas que vous dites n'importe quoi. Et mon cher Naïm, mesurez, on est ici entre amis. Juste un tout dernier mot. Mahrez, Sadio Mané, inexistant à la CAN, on peut pas dire que ce soit une réussite.
Non.
Alors vous me direz, il y a eu Seko Fofana, très bon, il y en a eu d'autres.
C'est pour élever le niveau, en fait.
Les têtes de gondole, c'était quand même parmi. Bon, Ronaldo, on a dit ça. Mais Mahrez, Sadio Mané.
Ghislain Conan, Franck Kessié, trois champions d'Afrique avec la Côte d'Ivoire.
Bah, tiens, trois. Tu peux trouver des contre-exemples.
Trois.
Facilement.
Mahrez, alors.
Il joue dans le championnat saoudien.
Mahrez, il a été nul à la CAN, mais je crois que ça dépassait l'histoire seulement de l'Arabie Saoudite. Ça a compté. Mais c'était aussi quelqu'un
Sadio Mané n'a pas été.
Il n'a pas été extraordinaire, mais il n'a pas été nullissime non plus sur le premier tour.
Georges Kevin Koudou, voilà, qui a été bon avec le Cameroun, il joue en Arabie Saoudite. Dans
au mieux, ils préservent leur niveau.
Mais attends,
mieux.
Mais Olivier, on peut trouver des. Alors, j'entends que la compétitivité, elle est en dessous de l'Europe, il n'y a aucun souci.
Bien sûr.
Vous trouvez facilement des contre-exemples.
Je parle pas de compétitivité, je trouve.
Bounedjia en 2019, c'est l'attaquant de l'équipe d'Algérie, il joue à El Sadd dans un championnat en bois, selon Naïm.
C'est le meilleur attaquant
de la CAN. Donc, ça, ouais. tu peux trouver des contre-exemples. En fait, c'est plus compliqué que ça, en fait. Ça dépend aussi de.
Ce qui n'est pas compliqué, et c'était le principe du débat, c'est que les stades sont vides. Et que personne ne regarde.
Pas tout.
Mais je vous invite à revoir les affluences en Ligue des Champions, notamment à l'Awal Park, là où ils ont joué hier, Al Nassr. Quelques jours auparavant, le même stade, c'était je crois vendredi ou samedi, pour la Coupe.
Il y a deux, trois équipes comme Al Nassr.
Le championnat, c'est pas
rempli. Les supporters saoudiens aiment le football.
Le championnat, c'est pas quatre équipes. C'est comme si on disait, il y a des grosses audiences en Ligue 1 parce qu'il y a PSG Lyon.
Oui, mais t'as pas des stades de 50 000 là-bas, tu vois.
Non, mais t'as pas des stades de 50 000, mais c'est à un moment donné. Tout ce qui a été acheté, pas uniquement en football, pour le sport, parce que c'est du soft power et pas à destination du Maghreb ou de l'Afrique, faut arrêter de dire n'importe quoi. Bon, et à un moment donné, ça compte aussi. Et regarde le combat de boxe qu'il y a eu ce week-end à Riyad, il y avait quelle ambiance dans la salle. Voilà, c'est qu'à un moment donné, je ne dis pas qu'ils n'aiment pas le foot, mais je ne pense pas que le sport à très grande échelle, ça soit leur truc. En tout cas, pas le sport à très grande échelle.
C'est un débat qu'on vient juste d'ouvrir et on aura l'occasion d'en reparler. Et pourquoi pas, ça finira peut-être par marcher, peut-être pas avec cette technique-là. Passons à l'Afrique, puisqu'on sait qu'il y a énormément de joueurs africains dans ce championnat saoudien. Bah, allons voir les dernières nouveautés africaines. L'Afrique, ce continent qui nous est si cher, mais oui, bien sûr, et peut-être que, et on ne doute pas une seule seconde qu'il y ait beaucoup quand même de téléspectateurs africains pour regarder la Saudi Pro League. On espère qu'il y en aura beaucoup pour regarder les tirages au sort, enfin, les quarts de finale plutôt, puisque le tirage au sort a eu lieu juste tout à l'heure, des Coupes d'Afrique des clubs. On va rappeler les affiches en Ligue des Champions, en dire un mot rapidement, surtout sur les affiches qui nous intéressent particulièrement. Il y aura donc match aller, on le rappelle, fin mars. Match
le 31 retour, mars, 7 avril.
Match retour, c'est ça, le week-end d'après. Simba, les Tanzaniens de Simba face au Al Ahly du Caire, les tenants du titre. Le TP Mazembe face au Petro Luanda, équipe angolaise. Ça, c'est plutôt sur
ça
le papier, bien, un tirage plutôt intéressant.
Pas sûr. Non, je suis plutôt.
Vaut mieux jouer le
match retour à Luanda, une équipe qui n'a toujours pas pris de but. C'est la première fois dans l'histoire de la Ligue des Champions qu'un club n'encaisse pas de but en phase de groupe. Il s'agit du Petro Atlético de Luanda. Donc, bon courage aux attaquants de Mazembe. Il faudra vraiment faire une grosse prod à la maison.
Et puis, le TP Mazembe, c'est un coup c'est bien, un coup c'est moins bien.
Et puis, le niveau du le championnat de RDC, là, ça en est où?
Là, on est dans la phase des play-offs, deuxième journée. Tout va bien.
Voilà, ça joue. Ça rejoue.
Oui, ça a rejoué.
Espérance Tunis à Sec Mimosa. La Sec, forcément.
Super affiche.
On va pas trahir de secret. Ça nous intéresse très fort, la Sec. Avec Monsieur Chevalier et Julien, c'est ça. À sa tête, on a envie qu'ils aillent loin, les Ivoiriens, parce que ça rappelle de bien doux souvenirs. Et puis, ça nous rappelle la CAN, et on était quand même pas mal là-bas.
Belle affiche, Espérance Tunis à 5 Nimo.
Ouais, ça donne envie.
Ah ouais, ça peut être intéressant. Il y a un coup à jouer pour la SEC. Alors, favori, ça reste quand même l'Espérance, qu'on le veuille ou non. Même si c'est une équipe qui est un peu moins rayonnante ces dernières années, à l'image du championnat de Tunisie. Après, c'est un peu le miracle permanent du côté de la SEC. Hein. Il y a des joueurs qui partent, on renouvelle tout le temps. Je crois que c'est Sankara qui est parti, l'attaquant du côté de l'Autriche.
Ça va être très compliqué, je pense.
Ça travaille bien, ça enchaîne les bons résultats. Ça finit premier de sa poule, c'est pas non plus anodin. Il y a un coup à jouer, clairement.
Le vainqueur de cette confrontation sera opposé en demi-finale à celui entre les Young Africans. On rappelle qu'il y a deux clubs tanzaniens dans ces quarts de finale.
Voilà, la nouvelle superpuissance du moment, la Tanzanie en club. Alors,
est-ce qu'il y en a un qui va aller au bout? C'est ça qui m'intéresse, moi. Parce que...
Les Young Africans, donc, opposés aux Mamelodi Sundowns, le club du président. Il ne faut jamais citer le club du président.
Ça va vite, là. Ça va vite, ça joue bien.
C'est le seul noyau de l'équipe d'Afrique du Sud. Ils ont gagné l'African Super League, qui est une compétition qui vaut ce qu'elle vaut. Après, bon, on n'est pas
10
là.
10 joueurs sur 23 sélectionnés à la CAN venaient de ce club. 7 ou 8 titulaires au coup d'envoi du 8e de finale. Yanga, où nous étions ensemble, Franck.
Mais Yanga, également finaliste de la Coupe de la Confédération africaine la saison dernière. C'est un club avec de gros moyens et d'une vraie ambition, du jeu. Même s'ils ont perdu Fiston Mayele à l'intersaison, ils ont du talent et notamment des joueurs venus de la SEC. Ils ont trois anciens de la SEC, dont Aziz Stéphane.
Ouais.
Ils ont Pacom Zouzoua et puis Atoula, le latéral. Ça peut bousculer les Sundowns, mais il y a un match retour à Pretoria et voilà, il faut qu'Yanga prenne un petit peu d'avance face aux Sud-Africains qui sont les favoris. Ouais.
Ils sont sympas sur le papier, ces quarts de finale. Du côté de la Coupe de la Confédération, moderne futur, les Égyptiens face aux Amalek, donc 100% Égyptiens. Abou Salim, c'est la Libye face à la Renaissance Berkane, les Marocains. Rivers United, le Nigeria face à l'USM Alger. Et je garde le dernier pour la fin, évidemment, parce que là aussi, on a une petite préférence. Le stade malien face aux Ghanéens de Dreams. Et les matchs sont même date, fin mars et début avril. Le stade malien, ça va commencer à se compliquer un peu. Mais...
c'est un bon tirage. Ouais. C'est un bon tirage.
Contre Dreams, le rêve peut continuer, peut-être.
Pas mal. Vaut mieux jouer, effectivement, Dreams que par exemple, l'USM Alger, qui est le tenant du titre.
Zamalek, c'est difficile de gagner chez eux. Quoi.
C'est coup sec, je pense, à de quoi faire, avec notamment Franck Thiessé, son capitaine ivoirien, très très bon joueur.
Ouais.
Moi, j'y crois à l'aventure du Stade Malien au dernier carré avec cette formation. Et puis après, ça deviendra compliqué s'il reste l'USMA, Berkane et Zamalek.
Ouais, mais bon.
Tout est possible après, ils peuvent rêver.
Bien sûr que vous aurez tous ces résultats sur RFI et on en parlera dans Radio Foot International.
Aucun club marocain évidemment. En quart de finale de la Ligue des Champions.
Le WAC s'est fait éliminer, ils sont en fin de cycle, il y a des problèmes avec le président qui est parti en prison.
C'est vrai qu'au moment où le Maroc, ils ont bien enchaîné sportivement, fait beaucoup sur le continent.
Le WAC, ils ont bien enchaîné ces dernières années. Ils ont gagné, ils ont fait des demi-finales, ils ont été aussi finalistes.
Mais là, ils sont
c'est une fin de cycle, mais bon, c'est pas ce truc.
Puis t'as beaucoup de départs.
Puis il y a l'histoire quand même du président, que je vous rappelle, qui est en prison.
Marocain ? Non, du WAC, bien sûr.
Donc c'est pas très bon.
On
s'est
dit du mal de Fouzil Egja, alors là, si jamais on fait ça, on est en grave danger.
Son club est là, Berkane est là, mais dans l'autre compétition.
Ouais, voilà, exactement.
L'actualité du foot africain, c'est bien sûr juste avant ces quarts de finale, des Coupes d'Afrique des clubs, les matchs amicaux de mars, pour préparer la reprise de la compétition en juin, les éliminatoires ou les qualifications, moi je préfère ce mot-là, pour la Coupe du Monde 2026. Alors l'occasion notamment de retrouver les champions d'Afrique, des Ivoiriens dont le sélectionneur Emers Faye a livré sa liste de joueurs hier. Le Bénin à Amiens au programme, puis l'Uruguay à Lille. Amiens, le Bénin et l'Uruguay à Lille. Oui, j'ai mis Lille, c'est Lens, bien sûr, à Bollard. Au programme, c'est le 22 et 26 mars. Les tauliers sont là, sauf les blessés ou malades. Les blessés, c'est Allaire, c'est Aurier. Le malade, pas tout à fait remis du palu, c'est Christian Kwame. Un petit nouveau. Latéral rennais.
C'est le 23, le premier match.
C'est le 23, donc 23 et 26 ou 23 et 27
contre les Béninois, c'est le 23.
Le deuxième match, le 26. Les guépards
béninois.
Exactement. De guerre notre or. Ils sont passés des écureuils aux guépards. Le latéral rennais, donc Guéla, Doué. Emers Faye rapidement, qui nous parle du match face à l'Uruguay, et on dit un mot de Guéla, Doué.
On voulait jouer une équipe hors du continent africain. Quand on a eu la proposition de jouer contre l'Uruguay, on n'a pas hésité une seconde parce que c'est une équipe qui a beaucoup d'agressivité, qui a beaucoup d'armes. Et je pense que pour confirmer un titre comme la Coupe d'Afrique, c'est important de jouer contre des équipes comme ça là, qui vont vous poser beaucoup de problèmes. Ils ont des très très bons joueurs. Ça se bat, ça lâche rien. Donc ça va être un très très bon test.
Et si la CAN a servi certainement à plein de choses en Côte d'Ivoire, certainement pas à améliorer les liaisons techniques au moment des conférences de presse. Vous l'avez entendu, ça,
la
décidément,
transmission, de la vaste fédération.
Chantier. Il y a sûrement beaucoup à faire. Un mot sur Guéla Doué.
J'aime bien. Déjà, il y a son frère. Dans la famille Doué, il y a Désiré, qui est exceptionnel avec Rennes, qui est un jeune à fort potentiel, qui peut aller en équipe de France. Guéla Doué, je l'ai découvert au fur et à mesure, prendre ce poste de latéral droit qui était occupé par Amari Traoré et ensuite à Signon. On sent qu'il a de la qualité et il a un profil d'avenir. C'est un garçon qui prend tout le couloir.
Dans une équipe qui recrute fort, qui se veut recruter fort, qui se veut avoir des ambitions et prendre des joueurs, même si ça n'a pas marché du niveau de Nemanja Matić, même si c'est pas le même poste évidemment. Faire confiance à un jeune et qui s'impose de cette manière-là, c'est forcément un bon signal. Et quelque part, bon, il a joué déjà pour les U23 de la Côte d'Ivoire, il joue pour la Côte d'Ivoire très bien. Mais à ce poste-là où on n'est pas hyper riche en France, avec 2-3 ans de plus, il aurait peut-être pu prétendre essayer de s'imposer.
Il a fait son choix, Franck.
Exactement. En fait, au moment où Emerson Faye était avec l'équipe nationale A et donc Gasset en novembre, en qualification pour la Coupe du Monde, il y avait un match amical contre l'Irak et c'est un match que j'avais commenté d'ailleurs en Espagne. Guéla faisait partie de cette équipe et il avait demandé à qui ? Il avait demandé à Guy Demel de diriger et Guy l'avait titularisé pour ce match. Ça avait été l'une des révélations de ce match. Il n'y avait pas que lui, il y avait aussi Bamo Meïté.
Meïté qui est très intéressant.
Qui est très intéressant. Donc, il y en a quelques-uns qui se sont glissés dans la liste pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire parce qu'ils avaient été recommandés par Emers Agasset. Et là, maintenant, lui, à son tour, il fait monter les U23.
De sélectionneur et de course à la Coupe du Monde, il en est question aussi au Burkina Faso. Ouais. Exit Hubert Velu d'après l'élimination en 8e de finale de la CAN par le Mali. C'est le local Brahma Traoré qui a été appointé hier avec un premier discours très solennel.
Je me battrai en tant que patriote pour, en tout cas, l'élévation du niveau du football de notre pays. Il faut qu'aujourd'hui, je puisse amener cette équipe également à arriver à l'objectif final qui est de se qualifier pour la Coupe du Monde et même remporter la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai confiance en moi-même et j'ai confiance aux joueurs. Je leur enseignerai ce que c'est que le don de soi. Je le ferai en toute franchise et en toute honnêteté. Je vais travailler et j'aurai une main de fer dans des gants de velours. Je ferai tout pour que la discipline règne au niveau de notre équipe nationale.
Eh ben, décidément, il y a du boulot et puis des sacrés objectifs, Franck Simon. Ouais. Gagner la CAN, aller à la Coupe du Monde.
Oui, il a deux matchs, le 22 mars contre la Libye, puis le Niger le 26 mars. C'est quelqu'un qui connaît déjà bien l'équipe nationale. Il a travaillé dans les catégories de jeunes. Et puis, il était l'adjoint du Belge Paul Putt lors des années 2012-2015. Donc, il connaît bien la maison et donc ça veut dire qu'il a vécu déjà une finale de CAN en 2013 en Afrique du Sud.
Effectivement, et voilà. Ils avaient été battus 1-0 par le Nigeria de Stephen Kishi, paix à son âme. Ça vous va, messieurs ? On l'a tout dit ?
Impeccable.
Bon, bah écoutez, maintenant on va attendre le rapport de Rémy Ngono, puisqu'il a sûrement écouté, comme on l'a dit. Ça a été un plaisir de vous trouver. Vous retrouvez la dame demain.
Alléluia.
Elle est de retour, elle a fini de danser sur le pont d'Avignon. Mathieu De Gueldre sera là, lui aussi. On vous souhaite une très belle soirée à toutes et à tous.